Le message d'aujourd'hui s'intitule, c'est pas marqué, mais je vous le dis, Oasis, alignons-nous sur Jésus. Et donc, c'est ça, je voulais vous rappeler quelque chose que j'avais dit au tout premier dimanche de l'année. Je pense que c'était le 5 janvier. On avait donné une vision pour notre marche avec Dieu, notre service ensemble en 2025. Et on avait dit, Dieu t'a rendu fructueuse en 2024. On a parlé du fait que tout au long de l'année, le Seigneur a mis des œuvres bonnes sur notre chemin, puis on les a faites malgré nos imperfections. Mais c'est vrai. Et maintenant que la nouvelle année commence, allons encore plus profond avec lui pour aller plus loin avec lui. Et on avait parlé de deux domaines. On avait parlé de comme notre intimité avec le Seigneur, nos temps de communion avec lui, d'aller plus profond avec lui dans notre communion quotidienne, nos temps de dévotion personnelle. Et aussi d'aller un peu plus, avec plus d'assurance, plus de foi dans la culture du oui. Pour saisir les occasions de service dans l'Église, mais aussi ailleurs. Et je vais continuer, même si... je vais demander, au bon moment, je vais te demander, Denzi, Ryan, d'avancer le PowerPoint. En fait, c'est ça. Vous savez que chaque automne et chaque printemps, ici, au Canada, au Québec aussi, on observe un phénomène extraordinaire dans le ciel. Et on l'entend aussi. C'est le vol des oies sauvages, qu'on appelle aussi les outardes. Oh, c'était là. Voyez comment ça marche. On blâme toujours le conjoint ou la conjointe. Même quand c'est nous qui sommes coupables. C'est pas bon, ça. Oui. Alors, revenons au vol des outardes ou des oies sauvages. C'est beau à voir. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore vu les oiseaux qui volent en formation V dans le ciel? Gardez les yeux ouverts au printemps, quand ils retournent vers le sud, et à l'automne. C'est vrai? C'est pas vrai. Tu les as vus? Pas encore. Oui, tu vas les voir. Tu les as vus dans un autre pays? OK. Oui, parce que si elles vont vers le sud, on les voit partout. Et leur manière de voler en groupe, c'est beau à voir. Il y a une vraie unité, un travail d'équipe. Pour rendre aérodynamique leur déplacement. Et voyez, en haut, il y a une oie qui est à la pointe du V, qui coupe le vent. Je vais l'appeler l'oie capitaine. Et en fait, c'est chacune son tour. L'oie capitaine se fatigue parce qu'elle coupe le vent et les autres travaillent fort aussi pour voler, mais par rapport à l'oie capitaine, elle se repose. Chacune va prendre le relais. Ce phénomène a été admiré par beaucoup de cultures. D'abord par les Amérindiens, mais vous savez, même tous les Canadiens, tous les Québécois, et les autres aussi, on les admire. Il y a même une chanson du groupe Mes Aïeux. Ça, c'est un groupe de musique pop québécoise, Mes Aïeux, qui, je pense, ils existent encore. Et voici quelques paroles de leur chant, Les Oies Sauvages, leur chanson, quelques vers. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent. C'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire, toutes unies à la chaîne derrière l'oie capitaine. Tour à tour, elles prendront la tête. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton. En fait, Dieu est en train de nous enseigner des principes de sa parole par les oies sauvages. Ces oiseaux nous montrent la force de l'unité, une unité non seulement dans l'esprit, mais dans l'action, et l'efficacité de l'alignement ensemble pour atteindre un but. Amen. Merci. Et évidemment, il est possible d'appliquer ça dans les communautés humaines. Et en fait, Dieu a créé les humains pour vivre cela. Ce n'est pas facile, mais on est créé pour cela. Et la communauté humaine, par excellence, où Dieu veut rendre cela visible, qu'est-ce que vous pensez serait cette communauté où Dieu veut rendre cette unité visible? Oui, l'Église. La Bible nous enseigne et même nous commande cette unité. Jésus a enseigné que l'unité d'amour qui va relier les croyants ensemble, donc dans l'Église locale, il veut qu'elle soit palpable pour donner aux gens autour de nous une petite idée de l'unité dans l'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans les cieux. C'est extraordinaire comme mandat, comme rôle qu'on peut jouer. Donc, comme les oies rendent visible ce principe que Dieu aime, ben, les églises, l'oasis, est appelée à le faire aussi. Et c'est merveilleux. C'est un gros défi que Dieu nous vienne en aide. Amen. Oui. On va lire un passage des Écritures qui nous parle de ce défi tout particulièrement et qui nous en donne la clé pour y atteindre et y parvenir. On va prier encore. Je sais qu'on a beaucoup prié. On va prier encore. Seigneur, donne-nous des cœurs pour écouter et que ton esprit nous parle. Parce qu'à travers un prédicateur imparfait, mais tu es là en train de nous nourrir, de nous instruire par ta parole. Alors, enseigne-nous. Amen. Allons-y avec ce texte, en fait, Philippiens 2, et on va lire juste une partie, on va lire donc un commandement et une partie, la deuxième partie, c'est comme le début d'un chant qui parle de Christ, et on ne regardera pas tout en entier, mais on verra l'essentiel en ce moment. Donc, je vais vous le lire. Donc, c'est Paul qui écrit aux chrétiens de l'Église de Philippe. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » C'est ici que commence ce qu'on pense être un chant. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Donc, je résume le message, la leçon du jour qui nous provient de ce texte. On ne voit pas très bien, mais je vais vous le lire. Je vais vous la lire. « Comme les oies sauvages, Dieu m'appelle à aligner mes efforts avec le reste de mon Église. » Et cette attitude va grandir ma foi, travailler mon humilité, augmenter mon amour et rendre l'oasis plus belle. Donc, Dieu m'appelle à m'unir, à aligner mes efforts avec le reste de ma communauté. Et voici ce que ça va produire. J'aimerais faire quelques observations sur le texte qu'on a lu, qui est un texte vraiment important. Donc, on a vu, premièrement, que nous sommes appelés à vivre en plein accord. Dans les actions, mais derrière cela, dans la pensée, dans les sentiments même. Cet enseignement revient plusieurs fois. L'expression en grec, autophroneo, ben en fait, c'est traduit « ayez une même pensée » ou littéralement « pensez pareil, ressentez pareil, soyez motivés pareil ». Ça revient trois fois. Maintenant, « pensez pareil » ne signifie pas que nous sommes censés devenir des robots dans une usine. Les robots dans une usine, j'ai déjà vu ça dans une usine de fabrication de voitures. Et, elles pensent toutes pareilles, mais elles sont comme programmées. Et l'unité est visible, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. On n'est pas censé non plus devenir une secte où tout le monde a subi un lavage de cerveau. Et puis, je dirais même, on n'est pas supposé devenir comme les oies sauvages. Nous sommes des êtres humains. On a été créés à l'image de Dieu. Nous avons une intelligence vraiment poussée. Et l'unité, quand, à cause de Jésus-Christ, que nous décidons de nous unir dans un même esprit et dans une même action, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est un plus beau phénomène aussi. Je dirais même, c'est un miracle. C'est vraiment à la gloire de Dieu lorsque nous, les humains, avec nos cerveaux, nos cœurs remplis de toutes sortes de choses variées, différentes, diversifiées, nous décidons de nous unir dans une église et d'agir ensemble. L'idée, c'est que Dieu veut amener d'autres à nous voir et à se demander qu'est-ce qui les motive à faire cela? Qui les motive à faire cela? Alors, le sacrifice qui m'est demandé dans l'unité, dans l'alignement dans mon Église, ce que je mets sur l'autel, ce n'est pas mon intelligence. C'est plus mon ego, mon orgueil. La manière de nous inviter les uns les autres à cela dans la communauté de Jésus, parce que oui, on cultive l'invitation à l'unité, mais c'est toujours en respectant l'intelligence, la liberté des uns des autres. Dans ta réponse à Dieu, je veux que tu te sentes libre et que tu le fasses de plein cœur, pas forcé. Et c'est dans cette liberté aussi individuelle où nous unissions collectivement que quelque chose de beau et de nouveau prend forme. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ce qu'on a lu, c'est que l'unité dans l'Église n'est pas immobile. Pensons aux oies sauvages elles sont unies dans l'action, dans le mouvement. Et l'Église aussi est unie dans quelque chose de mobile, de dynamique. On s'en va vers un but. Les outardes, elles, leur but, c'est de se rendre à un lieu de séjour qui est propice pour cette saison de leur vie. Alors, elles vont dans le nord canadien, en été. En été, il fait plus chaud là-bas et c'est un endroit parfait pour eux, pour la reproduction. C'est là qu'elles elles ont leur nid par terre, dans les toundras et ainsi de suite, et elles se reproduisent. Mais il fait trop froid pour elles. En hiver, elles vont vers le sud. Il y a toujours un but pour l'Église, pour le peuple de Jésus. C'est quoi le but? On s'en va vers où? Bien, on a un combat dans le monde, un combat à contre-courant, dont parle toute l'Épître aux Philippiens. Représenter Christ dans un monde perdu, un monde qui a besoin de lumière, puis qui ne comprend pas le message qu'on vient apporter, ne comprend pas encore. Faire connaître le message, justement, mais aussi, en cours de route, me laisser transformer par Dieu. Philippiens va parler beaucoup de... Il nous prépare à devenir irréprochables pour le jour où on va être arrivé à destination, on va le rencontrer face à face. Et c'est un jour, oui, on appelle ça le jour du jugement, mais ceux qui sont en Christ, ceux qui se sont joints au vol et qui ont travaillé, et Jésus les a sanctifiés, Jésus les a préparés. Jésus va être heureux de te voir. Hey, bravo, bravo! Entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est le fun, non? C'est merveilleux. Alors, l'autre point que je voulais dire concernant le texte, c'est peut-être le point le plus important. Pour orienter notre façon de faire, notre attitude, il y a un seul modèle, un seul leader à imiter. Vous l'avez compris, Jésus. Hein? C'est la clé. C'est la clé. Et moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est quelque chose quand même que je trouve pas mal important. Je le mets à l'écran maintenant. La clé pour le succès de ma vie dans la communauté, je parle dans le concret là, de vivre la vie d'Église, je pense plusieurs d'entre nous vont dire, c'est pas facile la vie d'Église, c'est pas facile pour mon ego. Mais la clé, c'est de me positionner envers les autres de la même manière que Jésus s'est positionné envers Dieu son Père lorsqu'il a marché parmi nous. Je vais répéter ça parce que c'est vraiment ce qu'on voit dans le texte, dans le champ du texte. La clé pour le succès de ma vie dans la communauté, c'est de me positionner envers les autres de la même manière que Jésus s'est positionné envers Dieu son Père lorsqu'il a marcher parmi nous. D'accord. Je vais expliquer avec des exemples. Quand on dit lorsque Jésus a marché parmi nous, je parle ce qu'on voit dans les évangiles, quand on lit les évangiles. Oui. J'y arrive. Bien, peut-être ce qu'on peut faire, c'est d'abord, on va remonter. Non, c'est trop compliqué. Je vais relire le passage qui dit « Ayez la même attitude que celle qui était en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. OK? Avez-vous déjà remarqué dans la vie de Jésus parmi nous, avez-vous déjà remarqué Jésus s'inquiéter des questions, des préoccupations suivantes? Je vais vous lire une pensée. Jésus qui réfléchit, qui dit, si je me positionne trop dans l'humilité parmi les humains, trop comme si j'étais un serviteur humain de Dieu, puis que je ne ressemble pas assez au Fils éternel de Dieu, bien, j'ai peur que mon Père céleste va oublier ma vraie identité et je pourrais perdre cette identité, je pourrais perdre ce statut. Non, il faut quand même que je travaille un peu pour maintenir mes acquis. Est-ce que vous comprenez cette réflexion? Difficile? OK. Jésus ne s'est jamais inquiété de l'idée si, dans ma marche parmi les humains, si je ressemble trop à un serviteur humain de Dieu, c'est mieux. Dieu va oublier qui je suis vraiment et je vais perdre mon statut de fils de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu Jésus se préoccuper de ça? OK. Je vous pose une autre question. Si les autres êtres humains me voient comme trop comme un simple humain, j'ai peur qu'ils vont manquer de respect envers moi. Je vais me sentir déshonoré par rapport à qui je suis vraiment. Dieu le Fils, le Roi céleste. Alors, il faut que je me protège. Est-ce qu'on voit Jésus s'inquiéter d'être déshonoré par les humains et vouloir protéger se protéger parmi les hommes. En fait, on ne le voit pas. Il prend le risque, il se dépouille, il prend le risque d'être mal compris. Si je ne travaille pas à gagner la première place parmi les hommes, là, c'est Jésus qui... On essaie d'imaginer qu'il pense ceci. Si je ne travaille pas à gagner la première place parmi les hommes, un autre humain, moins bon que moi, va saisir cette place-là et je vais me sentir frustré. Il faut que je sois compétitif. Puis j'ai les atouts pour gagner et devenir le roi du monde. Est-ce qu'on a vu Jésus faire cela? OK. C'est dans ce sens-là que Paul dit, regardons à Jésus, lui qui était Dieu, lui qui était de condition divine, n'a pas vu comme un trésor à préserver ce statut de fils de Dieu. Alors, on en parlait dans la réunion de prière tantôt, le mot butin à préserver est difficile à traduire. C'est traduit parfois comme une proie à arracher. C'est ni pour Jésus, ni il a essayé de préserver la gloire qu'il avait au ciel, ni est-ce qu'il a essayé d'arracher la première place parmi les humains. Voyez-vous un peu ce que Paul essaie de dire? C'est un peu compliqué, mais pour lui, ça a transformé sa vie et il est en train de dire, voilà l'attitude qu'il faut avoir dans l'Église. C'est celle de Jésus. Jésus a vécu beaucoup de rabaissement au niveau de son égo humain, mais il se souvenait qu'il perdrait jamais son identité, perdrait jamais l'amour de son Père, et que cet abaissement était pour une cause nécessaire, pour nous sauver. Hein? Et aussi que c'était temporaire. C'était temporaire. Temporaire à la vie ici-bas. Et nous aussi, on doit penser de la même manière. On est appelés, nous aussi, à vivre un service humble de Dieu, dans la famille de Dieu, sans succomber à ses inquiétudes, l'inquiétude égoïste pour mon prestige. Enfin, qui est humaine aussi, on a tous cette inquiétude-là. Dieu s'occupe de moi. Il prend soin de mon besoin d'amour et de reconnaissance. Oui.
En réalité, il ne faut jamais oublier qui on est vraiment.
Exactement.
Mais c'est pas mal ça, ce que j'ai entendu, qu'est-ce que disait quand Dieu était sur terre, Jésus, je veux dire, et qu'il faisait comme, il se préoccupait comme, je veux dire comme, ah, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis ça? Mais oui, tu l'es, tu es parfait, tu es le fils de Dieu. Alors,
oui, oui, amen. Et nous aussi, on est des fils et des filles de Dieu à cause de Christ, à cause de notre salut. N'oublions jamais, surtout quand c'est difficile, quand on se sent peut-être frustré ou rabaissé. Hein? OK, parlons maintenant de l'alignement. On le voit dans la nature. Et vous savez que les compagnies, peut-être même la compagnie pour laquelle vous travaillez aujourd'hui, parlent beaucoup de ce principe de l'alignement comme une valeur nécessaire pour la réussite. Je vérifiais à l'Internet. J'ai même essayé avec ChatGPT. Et puis, en fait, oui, alignement stratégique, alignement des valeurs, alignement des rôles, alignement des communications. Ce sont des choses qui sont mises en valeur dans les compagnies, dans les organisations. Et donc, on est créé pour ça. Même le monde autour de nous met ça en valeur. Mais nous, nous avons la clé pour le vivre d'une manière unique. Nous, l'Église de Jésus-Christ. La manière de vivre l'alignement, elle est basée sur comment Christ a vécu. Et c'est quelque chose qui frappe les gens. Je me souviens d'un témoignage d'une sœur qui parlait de sa foi à une collègue de travail. Et elle parlait, oui, de Jésus, la personne, et de son œuvre. Elle parlait, oui, de comment sa vie avait changé. Mais elle lui parlait aussi de sa vie dans son Église et le genre de relation qu'elle avait avec les frères et sœurs. Et quand le Seigneur a ouvert le cœur de son amie, cette amie a dit, non pas « je veux connaître Jésus », quoique il y avait de ça, mais je veux aller là où tu vas. Je veux aller là où tu vas. En parlant de la communauté. Comment maintenant allons-nous vivre cette unité aujourd'hui de manière pratique dans l'Oasis? On parle de 2025, on se prépare pour notre assemblée annuelle. Alors, à chacun, à chacune de réfléchir. Mais j'aimerais lire deux textes qui nous aident à le voir d'une manière concrète. Premièrement, le texte qui s'appelle « Construire ensemble » que nous avons écrit à l'Oasis, qui montre notre vision, notre mission, nos valeurs, mais aussi un autre texte qui s'appelle « L'engagement du membre ». Et je vais lire à voix haute, je vais mettre les textes à l'écran. Alors, suivez-moi. Dans la prière, demandez au Seigneur, est-ce qu'il y a un point concret qui apparaît au tableau que T'aimerais, Seigneur, que j'y réfléchisse ou que je fasse un pas pratique par rapport à cette chose-là. Alors, le premier texte, c'est construire ensemble à l'Oasis. Notre vision, que Dieu soit glorifié en Jésus-Christ dans l'ouest de l'île de Montréal et jusqu'aux extrémités de la terre, en voyant des personnes transformées par le Saint-Esprit qui, à leur tour, vont transformer leur milieu. Au niveau de notre mission pratique, 5 points importants. Former chaque personne comme disciple. Faire connaître Jésus autour de nous. Répandre sa justice et sa compassion. Bâtir l'unité dans la diversité. Prendre notre place dans la mission mondiale. On a aussi une manière d'agir dans l'Oasis qu'on appelle, qui sont résumées dans 12 valeurs. On veut rester centré sur Jésus. On croit à la vie en communauté. On se soumet à la Bible. On est passionné par la prière. On est consacré à l'évangélisation. On veut s'engager dans notre quartier. On cultive l'accueil de l'autre comme un égal. On veut que notre leadership soit relationnel, égalitaire, collégial veut dire en équipe, et responsable. On veut travailler en partenariat avec d'autres églises, d'autres organismes, lorsque c'est pertinent. La vie d'église, ce n'est pas juste le dimanche. Oui, c'est les célébrations, mais c'est aussi les petits groupes et c'est aussi la vie à la maison. On est engagé envers la mission mondiale et on fait partie d'une famille d'églises qui s'appelle l'Alliance chrétienne et missionnaire. Voilà un peu un cadre qui nous aide à réfléchir à notre unité. En passant, ça ne vient pas de la Bible. C'est un texte qu'on peut améliorer aussi, si on décide de le faire. J'aimerais vous lire un deuxième texte que, vous savez, nous avons des amis à l'église Alliance de Fairview, qui est à 2 kilomètres d'ici. Et quand quelqu'un devient membre, quand quelqu'un dit, ben, je veux officiellement dire à tout le monde que maintenant je veux m'engager à faire partie de l'Église. Nous aussi, on a un membership, mais eux, quand ils font ça, ils lisent le texte suivant et tout le monde répète l'engagement. Et je trouve ça quand même assez bien. Je vous invite à suivre avec moi. Mon engagement, par la grâce de Dieu, je vais protéger l'unité de mon Église en agissant avec amour envers les autres membres, en refusant de calomnier ou de faire du commérage. Okay, ça, c'est les différents mots pour dire « je vais parler mal de d'une autre personne dans l'Église ». Je vais refuser de calomnier ou de faire du commérage. Et aussi en suivant les dirigeants. Ensuite, je partagerai les responsabilités de mon Église en priant pour sa croissance, en invitant les nouveaux à participer, y compris les non-croyants, en accueillant chaleureusement tous ceux qui nous rendront visite. Je servirai le ministère de mon Église en découvrant mes dons et mes talents, c'est-à-dire en me mettant au service, je vais découvrir mes forces. En me dotant des moyens nécessaires pour mieux servir, en acquérant un cœur de serviteur ou de servante. Quatrièmement, je vais contribuer au témoignage de mon Église en participant fidèlement aux réunions, en m'efforçant de vivre une vie pleinement dévouée au Christ, en contribuant régulièrement des dons au ministère de l'Église. Et le dernier point, je chercherai à édifier le royaume de Dieu en prenant part à la communauté plus vaste des fidèles. Et ici, il y a un seul point, mais on pourrait en rajouter d'autres, mais en soutenant l'Alliance chrétienne et missionnaire dans le monde, grâce à mon engagement à être un disciple de l'ordre suprême de Jésus, tant localement que mondialement. Voilà, c'est terminé. La lecture des textes. Est-ce que ces textes vous encouragent, vous découragent ou un peu des deux?
Encourage.
Encourage? Qui vote pour encourage? OK. Qui vote pour décourage? Ah, personne. Good! Bien, c'est super. Parce que le but, c'est si Dieu nous demande ces choses, enfin, c'est ce que les Églises discernent que Dieu nous demande, c'est qu'en quelque part, avec son aide, on est capable de le faire. Mais moi, quand je lis ces choses, je me dis, je le vois partout dans l'Oasis. Je le vois déjà partout en vous. Mais allons plus loin. C'est jamais statique. Il faut aller plus loin, plus profond, pour faire plus, mais en Dieu. OK, on va terminer. D'abord, je voudrais qu'on regarde à nouveau les oies sauvages. Gardez les yeux ouverts au printemps pour les V dans le ciel. Puis ça fait du bruit, hein? Et je pense que ça va vous réveiller. Et si vous êtes nouveau ici, bien que votre fenêtre est ouverte. Est-ce que quelque chose est venu toucher ton cœur dans ce qu'on a lu? Prends-le en note. Réfléchis sur ce point cette semaine. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose. Ah! J'aimerais faire un pas de plus. Ou j'aimerais prier par rapport à cette chose qui m'a frappé, cette mise en pratique-là. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit, pratiquez la parole et ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Hein? C'est notre tendance, mais non. On écoute la parole pour la mettre en pratique. Comme les oies, Dieu m'appelle à aligner mes efforts avec le reste de mon Église. Et cette attitude va grandir ma foi, travailler mon humilité, augmenter mon amour, rendre l'oasis plus belle, plus attirante. Avant tout, n'oublie pas le modèle que Dieu met devant toi. Jésus, c'est son leadership que nous devons vivre. Est-ce qu'on peut terminer avec une prière ensemble? Je vous invite à vous lever et je vais prier. Et après la prière, ceux qui ont des bébés à la pouponnière, allez les chercher tout de suite après la prière. Et l'équipe de musique, vous pouvez venir en avant pour nous mener dans la louange. Oui, Seigneur, merci pour les oies sauvages. Merci pour toutes sortes d'organismes humains autour de nous qui nous donnent des reflets de ce que tu nous demandes. Puis merci pour Christ. Christ qui a fondé une Église qui peut vivre une unité surnaturelle. Seigneur, comme nous sommes faibles et combien notre ego, notre orgueil est vite blessé et peut nous mener dans un recul alors que tu nous appelles à avancer. Oh, guide chacun d'entre nous à faire un pas de plus. Merci pour ce que chacun est déjà en train de faire. Et Jésus, vraiment, que aide-nous à ce que notre nouvelle identité de fille de Dieu, de fils de Dieu, devienne de plus en plus forte dans notre cœur pour rester solide et servir quand c'est facile et quand ça l'est moins. Merci, Père. Merci, Jésus.